Jimaï sur 93,8.
Nous l'avons dit en sommaire au Kassaï oriental, ils sont plus de 3000 pygmées vivant à Lomela, dans le district de Sankourou. Ils vivent de la pêche, de la chasse, de la cueillette ou encore du ramassage. La cohabitation avec les autres tribus se passe sans problème, sauf à Djonga où ces pygmées vivent encore sous l'esclavagisme dans certaines familles bantoues. En vue d'aider ces pygmées et les autres populations locales de sortir de leur enclavement, l'ONG Congo Paix Action pour le développement en sigle CEPAD vient de monter une baleinière pour faire la navette entre Kinshasa et Lomela. Cette ONG se propose aussi de construire une école pour la scolarisation de ces pygmées. Nous avons dans ce studio Maître Elie Ngongo. Bonjour Maître Elie.
Bonjour.
Et nous avons associé également dans cette réflexion Eddy Delvaudère, scientifique belge. Bonjour.
Bonjour.
Alors la première question aujourd'hui, l'ONG CEPAD vient de poser une action salutaire, en tout cas pour les pygmées qui doivent effectuer maintenant des navettes grâce à cette baleinière. On peut avoir une idée sur les motivations de votre action?
Oui, justement, notre action est motivée suite à la misère criante qui est en train de sévir dans le territoire de Lomela et généralement dans le Sankourou tout entier. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait initier une action pour aider les populations locales à pouvoir pratiquement évacuer leurs produits agricoles vers les centres les plus rémunérateurs, particulièrement Kinshasa, afin de venir les revendre et réacheter en retour les produits manufacturés, les premières nécessités, entre autres le sel de cuisine, le savon, de lessive et quelques habits, puisque là-bas la pauvreté est très criante et la situation est très dramatique.
Vous êtes une ONG qui encadre les pygmées. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée très claire sur la prise en charge en question?
Oui, justement, nous sommes une ONG de développement. On n'encadre pas seulement les pygmées et on encadre aussi d'autres groupes
oui,
sociaux.
Parce que aujourd'hui, nous parlons particulièrement des pygmées.
Oui, mais aujourd'hui, ce sont les pygmées qui sont à la une. Nous avons fait d'abord une sortie de prospection avec Monsieur Eddy Delvaudère et Monsieur Aimé Pané, qui sont des scientifiques qui sont venus de la Belgique. Nous avons fait la descente sur terrain afin de pouvoir les rencontrer, apprécier leurs besoins, connaître leurs problèmes pour voir quelles actions que l'on peut initier à court, moyen et long terme.
Alors vous les avez rencontrés, quels sont réellement les besoins qu'ils vous ont exprimés?
Oui, les besoins, ils nous ont exprimé pas mal de besoins, mais d'abord ce sont des besoins de première nécessité et qui sont au premier plan, entre autres, se trouver les moyens de survie, les habits, le sel de cuisine, le savon, et en plus de cela, ils ont posé le problème de l'éducation de leurs enfants, ils ont posé le problème des moyens de transport, ils ont posé le problème des équipements pour l'agriculture. C'est un peu ça en gros.
La situation des pygmées, c'était la question qui a été débattue au cours des assises organisées l'année dernière à Brazzaville, qui avait regroupé pratiquement plusieurs pays, notamment la RDC, qui avait même participé. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la situation des pygmées semble être loin de trouver quand même, de s'améliorer, disons, du moins pour la RDC.
Oui, justement, la situation est loin de s'améliorer, d'autant plus que, vous voyez, la question est très complexe, puisque les pygmées sont très nombreux et puis diversifiés dans divers coins de la République. Certains sont déjà connus, on est en train de les assister, d'autres sont encore inconnus. Par exemple, ceux de Lomela que nous venons de visiter récemment, ils sont vraiment abandonnés à leur triste sort parce qu'il n'y a aucune organisation internationale qui les connaît ou qui tient compte d'eux. Et il n'y a aucune action publique systématique qui s'occupe d'eux. Alors, vous voyez, ça nécessite vraiment une action utile qui puisse les aider à sortir de l'impasse qu'ils sont.
Oui, Eddy Delvaudère, en tant que scientifique belge, aujourd'hui, vous avez peut-être effectué le déplacement de Lomela avec l'ONG CEPAD. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelle est la perception que la population de cette partie du pays a par rapport à vis-à-vis des pygmées?
Alors, je crois que d'abord, il faut relativiser ce que Maître Elie vient de dire. Nous avons été dans une région qui est une région enclavée, c'est-à-dire une région où l'information arrive très difficilement. Et lorsque vous voulez commencer à débattre avec les gens sur les égalités fondamentales ou sur les inégalités fondamentales, vous vous rendez compte là qu'il y a un déficit d'information, je dirais qu'il y a un déficit majeur. Quand on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, savez-vous bien que la majorité des gens à qui nous en parlons ne savent pas véritablement de quoi il s'agit. C'est une nébuleuse. Et là, je crois qu'il y a dans un premier temps un travail d'information à faire. Vous venez de dire aussi que nous parlons spécifiquement des pygmées. Or, je crois que on ne peut pas dissocier le problème des pygmées avec le voisinage des populations bantoues qui les entourent. Il y a un lien historique qui s'est forgé là, de telle façon que lorsque vous interrogez un pygmée aujourd'hui, vous avez rarement l'occasion de l'entendre comme tel, c'est-à-dire de l'entendre exprimer ce qu'est sa souffrance ou ce qu'est sa douleur fondamentale. Il y a toujours une tutelle qui est exercée sur la parole des pygmées, et qui étouffe d'une certaine façon la véritable voix et je dirais même le cri que le pygmée pousse vis-à-vis du traitement qui lui est historiquement infligé. C'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire peu connu des migrations au sein du Congo actuel, mais qui
oui,
se
après,
déroule...
Quand on se le dise, au stade actuel, au stade de la mondialisation, oui. On ne peut plus penser disons, autour de la stigmatisation de ces personnes, parce que ce sont des personnes à part entière, et qui doivent également jouir de tous les droits fondamentaux.
Mais c'est un discours superficiel que nous n'avons pas arrêté d'entendre. Néanmoins, lorsque vous reparlez avec les représentants des forces de l'ordre, par exemple, d'un village, il nous dit que il y a une immunité qui entoure le pygmée. Il ne peut pas les emprisonner, il ne peut pas les menotter, il peut de temps en temps, il peut leur donner une baffe, ça c'est ce qui est sous-entendu, parce que le pygmée jouit d'une certaine immunité. Attendez, si nous traduisons ça dans un autre vocabulaire, cela veut dire aussi que le pygmée est hors la loi. C'est-à-dire que si vous voulez admettre une égalité citoyenne vis-à-vis de la justice, tout le monde doit être égal vis-à-vis de la justice, hein, et qu'il y a des droits et des devoirs vis-à-vis de ça. Donc il y a véritablement une mise à plat fondamentale à faire sur l'ensemble des domaines. Le test HIV est un test qui est gratuit en principe. Nous avons rencontré une communauté pygmée qui nous a dit nous n'allons pas à l'hôpital pour
subir ou pour
parce que nous allons nous faire frapper par les infirmiers.
Ah bon?
Voilà.
Mais voilà. Alors, monsieur Eddy Delvauder, nous avons Nestor Otudi en ligne, ressortissant de Lomé, qui nous a rejoint. Monsieur Nestor, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes natif de Lomela, vous connaissez très bien la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la perception qu'a la population de Lomea vis-à-vis des pygmées?
Ok, les pygmées vivent à côté des Bantous, dans des petits campements. Ils sont très nomades et depuis des années, les pygmées sont vraiment exploités. Ça, c'est vrai parce que ils n'ont pas les mêmes statuts que les Bantous, c'est-à-dire que les Bantous les considèrent comme des personnes auxquelles on ne peut pas se marier, donc ainsi de suite. Des choses comme des discriminations comme ça, ça c'est vrai. Mais ils sont là, ils souffrent comme souffrent les Bantous, mais leur souffrance est beaucoup plus prononcée parce qu'ils ne savent pas se démener comme les Bantous. Hein, parce que les Bantous peuvent effectuer de longues distances à vélo pour aller vendre, mais les pygmées se contentent de vendre ce qu'ils ont gagné de la chasse, puisqu'ils vivent essentiellement de la chasse, contre la friperie, bon, si je dis la friperie, c'est ce que les Bantous apportaient et on n'en a plus besoin. Et par exemple, au sujet des habits. Bon, les selles, ils échangent ils vivent difficilement. Je vous dis que leur nombre continue à diminuer, les pygmées actuellement. Je ne sais pas si ceux qui font le recensement l'ont constaté. Moi, je n'ai pas fait le recensement, mais le nombre des pygmées continue à diminuer. Et je peux imputer cela à des conditions de vie difficiles actuellement.
Ben voilà, alors merci monsieur Nestor Otsugi de nous avoir apporté tous ces éléments. Nous avons Eddy Delvaudère, scientifique belge. Est-ce qu'il y a des raisons qu'est-ce qui serait à la base par exemple de la diminution des nombres de pygmées aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Mais je crois que il y a plusieurs facteurs une fois de plus, hein. Lorsque l'administration belge a lancer une supputation, parce qu'il n'y a jamais véritablement une enquête qui a été faite pour savoir combien il y avait de pygmées. En 1960, on estimait qu'il y en avait quelque chose de l'ordre de 300 000. Aujourd'hui, les chiffres oscillent entre 110 et 150 000. D'abord, je crois que la mortalité est un facteur extrêmement important. Il y a une mortalité importante chez les pygmées. En 15 jours et à travers les trois campements que nous avons traversés, nous avons assisté à trois deuils, par exemple. Ça, c'est un premier facteur. Le second facteur, c'est vrai que le sort des femmes pygmées est loin d'être enviable. Parce qu'elles sont souvent violées quand elles ne sont pas capturées et mariées de force. Donc, on assiste à la naissance d'une population, je dirais, métissée, qui elle-même, s'appelle des pygmées de seconde classe. Je veux dire, ça en dit déjà long. Et je crois qu'il y a par le biais de ce métissage, je veux dire, ce métissage forcé, il y a une diminution de la population pygmée comme telle. Vous ajoutez à ça la mortalité qui est due au HIV.
Je l'ai dit, sans pourtant vous couper la parole, oui. on reviendra sur ça. Il est temps pour nous de faire un petit tour du côté de Bounia, où il y a des petits problèmes au niveau des maisons carcérales. Et puis nous allons revenir sur le dossier pygmée à Lomeya avec Maître Eddy. Il est temps pour nous de retrouver notre confrère Jean-Paul Bassila. Nous revenons à vous, Eddy Delvaudère. Voilà, je pense que j'ai pas massacré ces noms. Autour des réseaux qui font qu'aujourd'hui, on observe quand même une certaine diminution. Vous aviez la parole avant même que nous rejoignions le ministre des Droits Humains. Vous nous expliquez un peu les raisons qui font qu'aujourd'hui, les pygmées ne sont plus visibles comme par le passé.
Je crois au contraire qu'ils sont plus visibles que par le passé. À partir de 1984 et à l'initiative de Monseigneur Kinga, ces gens ont été invités à sortir des forêts qui étaient, je dirais, leur milieu naturel à cette époque-là. Et ils se sont installés selon des modes différents, hein, certains dans les villages bantous, d'autres en périphérie des villages bantous. Mais il y a des exceptions également. Je pense au village de Judy Pelenge, où il y a un quartier véritablement qui a été acheté par le diocèse de Kolé, et où ont été installées une communauté pygmée relativement importante. Donc, je veux dire, chaque cas est d'une certaine façon un cas d'espèce. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes dans une période de mutation. Vous avez parlé tout à l'heure de mondialisation, sans doute, hein. Mais pour eux, il s'agit aussi d'une mutation au sens où ils sont en train de passer du stade du nomadisme vers le semi-nomadisme. Et cela implique, je dirais, un changement de mentalité fondamentale. Lorsque l'on vit au stade du nomadisme, on vit dans ce que l'on appelle en ethnologie au stade du communisme primaire. La notion de propriété n'existe pas comme elle existe pour un agriculteur. Or, aujourd'hui, pendant cette période de mutation, il y a une incompréhension profonde de cette mentalité entre les bantous auxquels les pygmées veulent ressembler, mais aussi des pygmées et de ce communisme fondamental qui fait croire aux pygmées que tout leur est acquis d'une certaine façon parce qu'ils sont les premiers habitants du Congo. Et je crois qu'une des démarches prioritaires à faire, c'est d'essayer d'organiser des rencontres et des forums et des débats et des discussions entre les communautés bantoues et les communautés pygmées dans le but premier de donner une certaine dignité.
Oui, mais ailleurs ça a marché, hein? Ça ne pose pas de problème, il n'y a plus de problème. Mais aujourd'hui, si nous parlons de Lomeya, parce que Lomeya semble être quand même un petit foyer des résistances où il y a cette incompréhension, oui, cette cohabitation difficile entre, oui, le bantou, oui, et le...
Pourquoi le... Parce qu'il y a une aliénation économique. Lorsqu'on parle avec les pygmées et que on leur demande comment ils sont rétribués. Nous sommes arrivés à un chiffre maximum de 200 francs congolais pour une journée de travail au champ. Hein. Dans des périodes.
C'est inhumain, c'est inhumain.
Oui, mais attendez. Moi, je dis 200 francs congolais. Par jour, il faut encore avoir les biens en main. Or, en général, c'est troqué contre du lococo. Donc, contre de l'alcool, contre de la chicoine, contre des bouts d'étoffe, de la friperie, etc. De telle façon à ce que le pygmée, s'il veut envoyer son enfant à l'école, est obligé de gager une partie de ce qu'il possède pour pouvoir envoyer un enfant à l'école. Donc là, on parle véritablement d'une aliénation économique, hein, qui est un système sans fin qui finit par aboutir au servage total.
Ça c'est particulier, c'est particulièrement pour Lomé, hein, parce que c'est vrai que aujourd'hui peut-être la perception elle est tout autre au niveau de la forêt équatoriale.
Mais au niveau des pygmées qui vivent à Kinshasa, je veux dire, il y a 600 pygmées qui vivent à Kinshasa et la majorité des gens l'ignorent par manque d'information.
Oui. Alors, je donne la parole à Maître Elie. L'approche que vous utilisez aujourd'hui, vous avez mis à la disposition des pygmées de Loméa une baleinière qui pourrait peut-être leur rendre service, quitter Loméa pour Kinshasa. Vous pensez que cette approche pourrait être quand même une des approches et qui donnerait solution à toutes ces difficultés?
Oui, justement.
Ça faciliterait l'intégration des pygmées?
Oui, justement. La baleinière est une approche qui intègre la dimension sociale dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle comprend à la fois les pygmées et les bantous. Toutes les deux catégories de population doivent se débrouiller dans leurs métiers, dans leurs travaux réguliers, afin de pouvoir survivre, afin de pouvoir particulièrement amener leurs produits dans les centres les plus rémunérateurs pour les vendre, afin de se tirer le profit le plus possible.
Alors, comme ça, ils ne seront plus l'objet des discriminations, des stigmatisations. Ils vont s'auto-prendre en charge, c'est quelque sorte.
Oui, leur problème, c'est que nous voudrions que la personne humaine puisse vivre de la sueur de son front dans son environnement social. C'est pourquoi nous voudrions que le pygmée, pour retrouver sa dignité, pour vivre une dignité humaine à part entière, il devra aussi cultiver, il devra aussi travailler au même titre que le bantou.
Je crois que nous allons y venir, monsieur Maître Elie Ngongo. Je crois que l'approche, elle est très, très, très appréciée par plus d'un. Nous allons peut-être revenir avec d'ailleurs de recherches que fait monsieur Eddy Delvaudère, un scientifique belge, autour de cette question. On va faire le suivi tout au long de la semaine et pourquoi pas de mois, des trimestres, pour voir comment vous allez évoluer avec les pygmées, les conférences, les ateliers. Donc, un dernier mot.
Il y a peut-être une petite chose qu'il faut dire. C'est pas une baleinière qui va résoudre totalement le problème. Mm-hmm. Mais la baleinière est un symbole. Est un symbole du désenclavement. Or, je crois que quand une société est en train d'opérer une mutation, il ne faut pas uniquement faire des actions concrètes, des actions humanitaires, il faut aussi pouvoir travailler sur le plan symbolique. Parce que c'est celui-là...
Oui, parce que là, la symbolique, elle est quand même forte, clairement. C'est un Africain, c'est vrai que les problèmes de déplacement se posent avec acuité, et surtout au jour d'aujourd'hui, pour évacuer les produits de première nécessité qui font peut-être vivre le pygmée, et c'est tout un problème. Nous allons y revenir, comme je l'ai dit tantôt, M. Eddy Delvaudère. Nous rappelons que vous êtes scientifique belge. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous disons également merci à Maître Elie Ngongo Nolongo, coordinateur général de CEPAD, une ONG qui encadre, en tout cas.
Oui, Congo Pays Action pour le développement, une ONG qui se base dans le développement et beaucoup d'autres actions sociales sur terrain.
On va découvrir dans les jours à venir plusieurs actions menées par CEPAD. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très bientôt.
Merci à vous.